l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est le rabbin Aaron Eliashef. Monsieur le rabbin, bonjour.
Bonjour.
Alors, connu ici à Strasbourg, où vous officiez à la communauté israélite du Bas-Rhin, j'aimerais vous présenter à nos auditeurs et revenir sur votre parcours totalement atypique de par votre naissance et votre chemin jusqu'au rabbinat, en revenant, donc, je le disais, sur votre parcours. Est-ce que vous êtes d'accord ?
On peut essayer.
On peut essayer. Alors, vous êtes le fils de l'acteur réalisateur Robert Hossein et de la psychanalyste Caroline Eliashef, troisième enfant de votre père, premier de votre mère. Vos parents se sont quittés très tôt. Est-ce que vous avez des souvenirs de vie commune avec vos parents ?
Absolument aucun.
Aucun ? Vous non. Aviez quel âge ?
Non, ils n'ont jamais vécu ensemble. À partir de ma naissance, ils étaient déjà pratiquement séparés.
Votre père, vous avez donc vécu avec votre maman ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous aviez des contacts réguliers avec votre père ? C'est lui qui vous a donné le goût du cinéma, des plateaux ?
Non, pas du tout, mais il est vrai que j'allais souvent. Il m'arrivait d'aller à Reims pendant cette période où il a fait ce fameux projet là-bas de théâtre, cours de théâtre, etc. Où il a révolutionné en vérité le théâtre.
C'est vrai.
Et donc j'ai des souvenirs extraordinaires de cette période. Pas tellement de mon père en tant que père, mais plutôt des spectacles eux-mêmes qui étaient vraiment extraordinaires, incroyables. Et comme on n'a pas de film, on ne filmait pas à l'époque,
oui.
On n'a pas de film, on ne se rend pas compte de à quel point c'était révolutionnaire, c'était incroyable, on n'avait jamais vu ça. On n'a pas de trace de ça, ce qui est inouï, quoi.
Il crée des scènes de théâtre avec des effets, enfin des choses majestueuses sur scène. Et c'est vrai que c'est le premier qu'il a fait.
C'est-à-dire avant à Reims, il n'y avait pas encore, c'était pas encore le Palais des Sports, le Palais des Congrès, etc. C'est pas encore les grands spectacles, mais c'était plus, je me souviens, c'était les Bas-Fonds, c'était d'autres pièces comme ça. Mais il y avait une intensité. Je crois que le slogan de l'époque, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'était le théâtre comme si vous étiez au cinéma. Et effectivement, c'était bouleversant. On était complètement plongé dans un univers. Je me souviens une fois, j'étais arrivé en retard. J'étais assis sur un strapantin. Il y a eu un tel. Une espèce de coup de tonnerre, etc. Je suis tombé du strapantin. C'était vraiment, on était... c'était comme dans un film, d'action. On était au temps pris, alors qu'en général, au théâtre, et ensuite, j'ai pu expérimenter moi-même en étant au théâtre, on s'ennuie énormément, c'est toujours un peu ridicule. Là, c'était incroyable.
Donc, vous n'aviez pas le goût du théâtre classique, vous le disiez bon. On s'ennuie au théâtre, tout du moins comme enfant. C'est quelque chose qui vous a... c'est la vie que vous avez continué à avoir sur le théâtre, même plus tard, parce que vous avez fait le cours Florent un peu plus tard. Hein.
Voilà, vous savez, c'est comme les gens qui ont... On ne sait pas quoi faire, quoi. Moi, je ne savais pas quoi faire. Et donc, l'hérédité a pris le pas. C'est-à-dire, on fait des choses qui sont faciles. Or, moi, le théâtre, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas très bon. Mais c'était facile. Et donc, j'étais au cours Florent, comme ça, de manière un peu désœuvrée. Et ensuite, j'ai rencontré un professeur de théâtre absolument incroyable, extraordinaire. Il s'appelait Pierre Reynal, qui était celui qui faisait répéter Maria Cazares, Bruno Kremer et d'autres, qui avait connu Gérard Philippe. Et c'était vraiment un professeur inouï. Et il montrait comment les textes devaient être dits, etc. C'était incroyable. Et quand j'ai passé le
conservatoire.
Voilà, conservatoire qui était censé être genre l'examen très dur, etc. Pour moi, c'était rien le conservatoire. J'ai fait deux scènes. Une, les frères Karamazov. Alors pour moi, les frères Karamazov, c'était c'est de la bibine, quoi. C'était trop facile. Et donc ils m'ont pris là-bas. Mais je m'ennuyais. J'étais dans la classe de Michel Bouquet. Et c'était sérieux. C'était vraiment... c'était pas du tout la même chose, quoi.
Vous, ce qui vous plaisait, c'était les textes, en fait, plus que le théâtre, les représentations, d'être sur scène, c'était les textes. Vous aviez déjà l'amour des textes, des lettres,
hein? Pas du tout.
Pas du tout.
Ah. Rien ne me plaisait.
Vous étiez vraiment désœuvré, vous étiez là un peu par hasard.
Non, je le faisais parce que c'était un peu, c'était un peu héréditaire.
Vous vouliez plaire à votre
ça
père
dans le sang.
Aussi,
non, pas du tout.
Pas du tout.
Alors, pas du tout. Je ne voulais plaire ni à mon père, ni à ma mère. J'ai toujours fait des choses... voilà, parce que je sentais qu'il fallait les faire. Au contraire, c'était compliqué avec mon père. Mais c'est pas, il y avait pas que ça. J'avais aussi, surtout mon beau-père qui, donc le mari de ma mère à ce moment-là, qui s'appelle d'ailleurs Marine Karmitz et qui était producteur. Et là, ça m'a, voilà, c'était aussi c'est un peu plus le monde du cinéma. Avec ça, j'ai fait un film très important de Yılmaz Güney qui s'appelait Le Mur. Et voilà, c'était des expériences intéressantes. Mais je le faisais parce que, comme quelqu'un qui reprendrait l'affaire de ses parents, il ne se pose pas de questions. Est-ce que je suis bon en business? Est-ce que ceci? Voilà, je continue l'affaire de mes parents, quoi.
Et vous avez eu un beau succès d'estime pour ce film Le Mur, ça vous a pas encouragé? Vous vous êtes dit à un moment donné, il y a une autre voie pour moi. C'est venu d'une lecture d'ailleurs. Vous vous dites que c'est un livre de Seul comme Franz Kafka de Marthe Robert qui vous a amené à ce retour au judaïsme ancestral et à vos racines quelque part. Le judaïsme n'était pas présent du tout, ni chez votre grand-mère, Françoise Giroux, journaliste, productrice de cinéma également, ni chez vos parents?
Productrice, non. Mais disons, elle a fait un film, elle a écrit un scénario, Le Bon Plaisir, qui a été produit par mon beau-père, Marine. Et oui. Disons que depuis le départ, j'étais un peu réfractaire, disons, à l'existence, quoi. C'est-à-dire, j'avais du mal à croire que vivre, c'était... voilà, grandir, avoir un métier, ou avoir des enfants, ou partir en vacances, gagner de l'argent. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un bug, quoi. Ça pouvait pas être ça. Mais c'était quoi? Je savais pas ce que c'était, mais ça pouvait pas être ça. Mais ça, je l'ai compris, ou je l'ai senti dès la maternelle, quoi. Donc je trouvais toujours que c'était un peu bizarre... Le genre humain était un peu bizarre. Et donc quand, par hasard, j'ai eu cette lecture, effectivement, d'un livre de Marthe Robert sur Kafka, qui était la problématique de l'artiste, dans le sens où, si disons, je m'accomplis en tant que juif, qu'est-ce que je vais créer? J'ai plus rien à créer, d'une certaine manière, parce que j'incarne ce que je suis. Donc j'ai plus les problèmes qui me permettent de créer. Et donc tout ce texte, cette analyse, disons, de Kafka, de Marthe Robert, m'a fait dire que ça ressemblait tellement à ce que je ressentais, que forcément je devais être juif, alors que non seulement je savais pas ce que c'était qu'un juif, Israël, bon, les bondieuseries, alors ça c'était sans moi, quoi. Alors, on m'aurait jamais fait rentrer dans une secte, d'ailleurs je continue à détester les bondieuseries. Et donc, la religion, tout ça, ça me semble toujours complètement n'importe quoi, quoi. Et donc voilà, c'était une... Je me suis dit, c'est sûr que je suis juif, ça ne peut pas être autrement que ça. Et en cherchant, en creusant, etc., je me suis rendu compte que c'était vrai.
Vous étiez plus à la recherche d'une forme de spiritualité?
Ah non, moi, je n'étais pas du tout spirituel.
Non plus.
Peut-être encore maintenant. Non, le spirituel ne m'intéressait pas du tout. Non, j'étais plutôt à la recherche d'une certaine vérité. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est complètement absurde. J'avais pas cette phrase en tête, mais disons, je pensais aussi un peu comme Cioran quand il dit « à quoi bon se suicider? On le fait toujours trop tard. » Donc c'était un peu tard pour se suicider. Voilà, je ne voyais pas l'intérêt. Et on fait quoi sur Terre exactement?
Votre maman, Caroline Eliashev, psychanalyste de profession. C'est des propos, c'est des échanges que vous aviez avec elle sur ces sujets-là. On peut l'imaginer dans le cocon familial.
Ouais, mais ce serait vraiment de l'imagination. Non, pas du tout. Avec ma mère, on a un rapport. Vous savez, c'était la psychanalyse, c'était mai 68. Voilà, c'était un moment où aussi on éduquait d'une certaine manière. C'était l'époque de Lacan. Où il y avait, voilà, c'était toute une époque. C'est difficile à décrire, c'est toute une époque où les relations parents-enfants, et moi en plus, c'était très conflictuel avec ma mère, parce que ma mère était... Et, tu vois pourquoi je parle comme ça, ma mère est très intelligente. Disons, elle avait sûrement pour moi pour moi comme pour d'autres, hein, des choses assez... un parcours, elle me voyait sûrement faire un parcours d'une certaine manière. Et donc, moi, j'étais tellement à part, j'étais tellement en marge, j'étais tellement biscornu, disons, que les rapports étaient un peu compliqués, quoi. Elle était un peu désespérée pour moi. Et je la comprends. J'aurais été aussi très désespéré pour moi à ce moment-là, peut-être encore maintenant, mais en tout cas à ce moment-là, certainement.
Elle a été rassurée de voir la route que vous avez empruntée, le rabbinat.
Le rabbinat, c'est un accident. Je suis fait pour être rabbin, comme vous êtes faite pour être peut-être joueuse de rugby. Donc voilà, le rabbinat, c'est vraiment... c'est un peu d'humour, quoi. Mais disons le judaïsme, oui, la Torah, l'enseignement, essayer de faire comprendre aux juifs la dimension de ce qu'ils sont, essayer de faire qu'ils ne... Disons, j'étais toujours très sensible à cette manière dont ont les juifs particulières de se détruire eux-mêmes. Ça a toujours été un grand sujet pour moi. Et donc j'ai essayé de participer au fait qu'ils se détruisent un peu moins. Voilà. J'ai essayé de faire ça pendant quelques années en étudiant et en enseignant comme ça. Mais voilà, le rabbinat, c'est vraiment un accident.
Alors pour
un bel accident. Hein.
Oui, j'imagine. Pour revenir à votre enfance, c'est votre père Robert Hossein était juif. C'est des échanges que vous avez eus avec lui, le judaïsme, la foi. Alors les bons dieux on a compris que c'était pas votre truc. Le sien certainement non plus.
Ouais, pas du tout. Non, mon père, ce qu'il avait, d'abord juif, je sais pas, on sait toujours pas exactement ce qu'il en est de lui, mais. Mais non, ce qu'il avait, c'est qu'il avait du génie. Il avait de l'inspiration. Il avait des visions. Il avait vraiment ce qu'on appelle du génie. Ça veut dire... voilà. Et ça, effectivement, sa métaphysique, disons, venait du fait que c'était un génie et qu'il voyait des choses que personne ne voyait. Il avait un sens de... Je me souviens d'un spectacle extraordinaire, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, à la fin de Notre-Dame de Paris, donc on est au Palais des Sports, si mes souvenirs sont bons, il y a cette espèce de grande cathédrale, etc. Donc c'est la fin du spectacle, et tout à coup il y a un silence comme ça, incroyable. Il y a une petite porte qui s'ouvre en bas de la cathédrale, et tout à coup il fait le spectacle, il fait sortir Victor Hugo. Et là, c'est voilà, il y a une dimension incroyable, quoi. Hugo qui tend les bras vers tous les gens qui sont pauvres, tous les gens, etc. Mon père, il avait un grand sens de la détresse, disons, de la détresse humaine. Et donc avec Victor Hugo, ça allait très bien, ça matchait très très bien. Et donc voilà, il avait une certaine métaphysique, ouais. Mais liée au spectacle, comme l'aurait Hugo, par exemple.
Est-ce qu'on peut être, un génie et avoir à côté une vie terrestre d'homme ordinaire?
Je pense qu'en tout cas, lui non. Peut-être d'autres, mais lui non. Lui non, lui il était toujours perché, quoi.
Toujours perché dans la démesure.
Hein. Ah ouais, perché. Il était toujours perché. Ouais, comme un visionnaire, quoi. Comme quelqu'un qui n'est pas complètement sur terre, quoi. Mais tout en étant très inscrit dans le monde, parce que des spectacles, il fallait les monter, c'est très technique, faut gérer des centaines de comédiens, faut gérer énormément de choses comme ça, faut travailler, comme il disait, le génie c'est 99% de travail, et effectivement c'était ça chez lui. Et beaucoup, 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 beaucoup de travail.
Il vous a accompagné, vous, au début de votre carrière, enfin au début de vos, enfin pendant le parcours de vos études de théâtre et après le début de votre carrière au cinéma, il vous a accompagné, vous a encouragé ?
Non, jamais. La seule personne qui m'a vraiment aidé toute ma vie, à tous les niveaux, Torah, tout ce qu'on veut, c'est mon beau-père, Marine Karmitz. Vraiment, même dans le cinéma. Je me souviens quand on a présenté le film de Gunet à Cannes, l'année d'avant, il avait eu la Palme d'Or, et donc il revenait avec ce film-là. Et il m'a dit, écoute, voilà, Cannes, comme vous savez, c'est à côté de Nice, donc vous arrivez, vous prenez l'avion, vous arrivez à Nice. Il m'a dit, personne ne viendra te chercher pour pas que t'aies la grosse tête. C'était quelqu'un qui était d'une modestie, quand il était en fonction, etc., qui était d'une modestie absolument incroyable. Et donc voilà, il m'a éduqué, il m'a appris vraiment comment vivre. Et disons, comme je dis souvent, il est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus juif que moi, tout en étant autant, peut-être un petit peu moins pratiquant. Il est beaucoup plus juif que moi, il a beaucoup plus l'esprit du judaïsme que moi, et notamment par cette qualité incroyable qu'il a de modestie, de générosité, d'intelligence. Il est plus juif que moi.
Donc là, vous dressez le portrait de votre père spirituel, la personne qui vous a inculqué les valeurs, les principes de vie qu'aujourd'hui encore vous appliquez.
Ouais, j'essaye d'appliquer, j'en suis très loin. Mais, et surtout aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Rav Gronstein. Quand je suis parti à la yeshiva, je faisais un spectacle de Peter Brook qui s'appelait Chin Chin. Donc Peter Brook, c'était un grand metteur en scène, une grosse vedette, etc. C'était avec Mastroianni d'ailleurs. Il y a quelques photos qui traînent sur le net de ça. Et donc, je suis parti à l'Yeshiva à Nice et avec Rav Gronstein. Et là, j'ai vraiment bien, bien appris la Torah. J'ai vraiment bien appris tout ce que je sais. Je le tiens de lui. Et même ce que j'ai rajouté ensuite, on dit toujours, le sage rajoute. Chacham Yossif Lekar, tout ce que j'ai rajouté, c'est à partir de ce que j'avais appris à Nice de Rav Gronstein.
Et aujourd'hui, vous êtes le père à l'image de votre beau-père, avec vous, vos enfants.
Alors moi, je suis un très mauvais père.
Décidément.
ouais, ça, l'éducation, les enfants, et tout ça,
c'est... C'est l'humilité qui vous fait dire ça ?
Non, c'est que c'est un sujet impossible, quoi. C'est un sujet très compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Sur les autres sujets, avec beaucoup de prétention, je pourrais dire que j'ai un peu compris quelque chose. Mais sur le sujet de l'éducation des enfants, de la transmission, là, je suis sûr que j'ai rien compris.
Vous les accompagnez dans leurs différentes vocations également, si quelqu'un, évidemment, veut faire du spectacle, ou aller plutôt dans la voie du rabbinat. Après, les deux sont peut-être liés, hein, dites-moi.
le spectacle, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est que le théâtre, ce que j'essaie d'expliquer à un de mes enfants qui est assez tenté par ça, c'est que c'est un monde. C'est pas seulement faire du théâtre, c'est pas seulement faire un film, etc. C'est un monde. Or, ce monde, il est intéressant, mais c'est un monde qui est, par rapport au judaïsme, un peu compliqué. Donc, si c'était que le théâtre, si c'était que le cinéma, sans problème. Mais tout ce qu'il y a autour, et qui est aussi passionnant, qui est beau, quoi, qui est le côté people, les drames, tout ce délire de l'artiste, quoi, c'est superbe. Mais pour un juif, je pense que c'est un peu compliqué.
Alors, votre père est décédé le 31 décembre 2020. Il y a eu un gros coup de projecteur sur vous, son enfant, ici à Strasbourg. Le rabbin Eliashef, hein, vous avez pris le nom de votre maman. Vous avez été gêné par ça, par ce coup d'éclairage au moment où votre père disparaissait ?
Franchement pas. Et là, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que les médias, si on ne va pas les chercher, ils sont très respectueux. Franchement, j'étais... c'est une belle expérience. Parce que personne, dans le fond, voilà, les gens essayent, etc. Si vous dites non, on vous fout une paix royale. Et vraiment, c'était bien et je les en remercie.
Le rabbin Aaron Eliashef, donc de votre nom d'avant rabbin, c'est comme ça qu'on peut dire, Nicolas Hossein.
Oui, tout à fait.
Dans la communauté, ici à Strasbourg, votre histoire, elle est connue. On vous pose des questions toujours sur ce passé avec ce génie, comme vous dites.
Non, les gens le savent. Et voilà, c'est des espèces de... C'est une espèce de marketing, de publicité qui se fait sans que j'aie besoin de la faire. C'est pour ça que beaucoup de gens ont besoin de se faire connaître, beaucoup de gens ont besoin de voir leur nom dans les journaux, beaucoup de gens, à l'intérieur de leur métier, ont besoin d'exister. Moi, je les comprends. Je les comprends parce que moi, j'ai eu ça sans le vouloir, et au contraire, j'ai eu ça en le refusant. Donc bien sûr, les gens sont au courant, les gens connaissent, les gens sont un peu fascinés, etc. Moi, ça m'amuse parce que, dans le fond, comme il n'y a que la Torah, l'étude et tout ça qui m'intéresse, tout ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Mais bien sûr, c'est une réalité.
Ça fait partie de vous, vous le portez.
Exactement.
Et ce nom aussi.
Tout à fait.
Rabbin Aaron Eliashef, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir éclairé sur ce grand pan de vie que vous avez vécu enfant, votre vocation au théâtre. Merci.
L'invité de la rédaction.